Voilà, merci beaucoup. J'en profite pour remercier les équipes qui ont fait ça, et notamment Juliane. Ce petit film, c'est quand même du boulot. Donc, merci beaucoup. Alors, sera donc, on va parler de, évidemment de l'année 2024 d'Arverne. Je vais le faire, non pas tout seul, mais avec Emeline Otax, qui est ici, qui est la CFO du groupe, qui prendra la parole tout à l'heure, notamment pour la partie financière et la partie chiffres. Seront aussi présents côté Arverne quasiment l'intégralité du COMEX. Donc n'hésitez pas à la fin de venir les voir, ils iront à votre rencontre pour répondre à vos questions. Évidemment, je ne suis pas seul, donc on a la chance de tous les avoir aujourd'hui, bien qu'ils soient tous très occupés. Et donc voilà, on fera aussi, j'espère, un petit peu de one-to-one, ou en tout cas on discutera à l'issue. N'hésitez pas à rester un peu. Voilà, alors. Donc, Arverne, au cœur du défi du siècle. Moi, ce que je considère comme étant l'enjeu du siècle qui arrive et qui est de trouver une énergie ou des énergies qui répondent à un triptyque, qui répondent à trois objectifs, trois enjeux qui sont majeurs aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qui sont, un, la souveraineté. Alors, ça peut être vu dans le désordre, mais aujourd'hui, on voit qu'avec les enjeux géopolitiques mondiaux, on a des enjeux de souveraineté qui sont éminemment critiques. Donc il faut être souverain dans le secteur de l'énergie, il faut être évidemment économiquement viable, donc ça c'est le deuxième critère, donc souverain, viable et vert, puisqu'on parle évidemment d'énergie renouvelable, verte et décarbonée. Donc c'est ça l'enjeu du siècle qui arrive, et chez Arverne, on est, et moi le premier, totalement convaincu que ça va se passer sous nos pieds, que le sous-sol va être le game changer de la transition énergétique, que ce sous-sol regorge de richesses et que, en premier lieu, on a la géothermie qui peut l'incarner, qui est en train de l'incarner, puisque ça y est, on ouvre les yeux. Et donc que Arverne a vocation, puisqu'on a été créé pour ça, on est un pur play de la géothermie, va devenir un leader sur ce marché, devenir un champion national, européen, voire même pourquoi pas plus. Donc c'est ça l'idée. Et donc bah, ça, on est passé par 2024 pour vous montrer que a priori, on est on track, on est sur le bon chemin pour tenir notre ligne. Donc on parle de géothermie, mais quand on parle de géothermie, et ça c'est un de mes, évidemment, j'y tiens beaucoup, c'est qu'on comprenne bien ce que Arverne fait, vous comprenez bien, vous qui nous suivez de près, ce que Arverne fait au quotidien et ce qu'on ambitionne de faire. On est un acteur du sous-sol, on est un acteur de la géothermie, mais il n'y a pas qu'une géothermie. Donc il y a une géothermie de, et on va le voir ici, puisqu'on va parler de modèle, une géothermie simple, entre guillemets, qui est de produire de l'eau chaude, de nappes phréatiques profondes, dites profondes, donc au-delà de 1000 mètres. Donc on produit de la chaleur, c'est une énergie qui est 100% efficace, puisqu'il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de transformation. Donc ça, c'est assez simple. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour des solutions, pour des situations complexes, qu'elles soient, encore une fois, que le secteur de l'énergie, c'est complexe, mais là, il y a encore plus complexe à cause de la géopolitique actuelle, eh bien, il faut des solutions simples. Et la géothermie, c'est simple. C'est sous nos pieds, on va juste chercher de l'eau chaude. Donc ça, c'est le modèle de gauche. On le fait passer dans des réseaux de chaleur, mais le but, voilà, c'est d'aller chercher directement la chaleur à source. On a une autre géothermie un tout petit peu plus complexe, qui est une géothermie associée à l'extraction de minerais et de métaux rares. Donc là aussi, on la travaille. On est, vous allez voir, post-PFS, on s'est forgé des convictions sur le fait que ce lithium géothermal jouera un rôle majeur dans la mobilité électrique. Donc on a une autre géothermie qui permet à la fois de décarboner les réseaux, les industriels et la mobilité électrique, notamment à travers la construction des batteries. Donc c'est ça, Arverne, c'est d'être le player majeur de cette transition énergétique par le sous-sol qui, elle-même, on le pense, va être le vecteur et la réponse, on va dire, à ce défi, qui est un défi majeur, un défi du siècle pour moi. Ça, c'est la photo, justement, de ce qui peut être considéré comme la vraie problématique d'un des secteurs de l'énergie. On parle de la chaleur. Là aussi, on a trop tendance à oublier que l'énergie, aujourd'hui, c'est pas que l'électricité. C'est d'abord, je dirais, la chaleur, puisque la moitié du gaz et l'électricité servent à vous chauffer et à chauffer d'autres types d'usages, notamment des usages industriels. Donc, sur la gauche, vous avez ce qui représente plus de 70% aujourd'hui de la chaleur française, le gaz. Et bien, d'où provient le gaz? Vous avez là des chiffres, qui sont des chiffres up-to-date, donc des États-Unis, de la Russie, de l'Algérie. Déjà, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. De l'Azerbaïdjan, du Nigeria, quand même de la Norvège, etc. Donc, il serait quand même bon de penser à des solutions qui soient plus locales, plus proches. Et cette solution, c'est pas la seule. On peut parler de solaire thermique, on peut parler de biomasse, mais la géothermie a un potentiel qui est totalement sous-valorisé. Et c'est ça que Arvern va faire dans les prochaines années, c'est unlocker ce potentiel. Du côté droite, on a la transition par la mobilité électrique, les véhicules électriques, et donc les batteries et donc le lithium. Et ben, le lithium aujourd'hui, c'est 70% la Chine. Donc là, on a un autre type de problème. Tout le lithium, ou presque, est raffiné en Chine. Il est produit dans les salars, il est produit dans les mines, mais il part direction la Chine. Donc là, on a un double problème. D'abord d'empreinte carbone et ensuite de prix. Et évidemment, d'accès et de relations, on va dire, internationales. Donc ça, la photo d'aujourd'hui, eh bien, elle est quand même assez problématique. Et donc Arvern est un acteur qui va permettre de résoudre un certain nombre de points en massifiant la géothermie. Aujourd'hui, on a une fenêtre de tir qui n'était pas prévisible pour le commun des mortels, mais nous, on l'avait prévu. Arvern l'avait prévu. On avait prévu que mathématiquement presque, post-Covid, post-Ukraine, etc., eh bien, on allait devoir développer la géothermie. Ça, je vous l'ai déjà dit il y a 2 ans, ou au moins il y a 1 an. Je le redis aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont vérifiées, qui ont été dites. Donc je ne fais que retranscrire finalement. D'autres ont fait que retranscrire ce qu'on avait visualisé, ce qui n'était pas facile finalement. Et Sylvain Wasserman a eu un mot très juste face à Apolline de Malherbe il y a quelques mois. Il a dit la géothermie a rendez-vous avec l'histoire et avec son histoire. Ça, c'est très juste. On peut penser qu'elle peut encore rater le virage. Nous, on pense que c'est totalement impossible. On y est. Il y a des objectifs qui sont la géothermie est plébiscitée. Et donc, ça se dit au plus haut niveau. Et c'est la première fois qu'on entend un Premier ministre parler pour la verification et pour la décarbonation de l'ELEC de nucléaire et pour la chaleur de géothermie. Donc, on a un binôme, on a un couple nucléaire-géothermie qui est plébiscité, là aussi, au plus haut niveau. Et donc, évidemment, avec les mesures qui s'en suivent, dont on discutera tout à l'heure dans la presse et j'imagine pendant les questions. Donc la géothermie, ça y est, l'heure de la géothermie est arrivée. En revanche, on va voir, il n'y a pas d'acteur.
Dans l'autre sens, la salle.
Et cet acteur, ce sera Arvern. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire sur la géothermie, y a le monde d'avant et il y a le monde actuel sur le marché de l'énergie, que ce soit français ou européen. Voilà, on avait du gaz, du fossile, du nucléaire en France. En France, on avait cette chance. Et avec les conséquences que vous connaissez, avec notamment de la volatilité, avec du fossile à peu près partout, et une géothermie totalement inexistante. On ne connaissait pas la géothermie jusqu'à il y a quelques années. Donc ça explique qu'elle ne représente qu'à peine 1% de la production de chaleur en France. Donc on sait expliquer les choses et c'est plutôt rassurant. Maintenant, il faut des solutions. Il faut d'autres options. Et donc, on arrive au moment aujourd'hui, la géothermie qui devient une valeur sûre. On a aussi tendance à oublier qu'il y a quand même des ouvrages, il y a quand même des références, et notamment la région Île-de-France qui est une référence en Europe. Mais voilà, ça n'a jamais été mis en avant. On le dit et le redit. Et puis, il y a des modèles qui arrivent, et notamment le nôtre, notre modèle intégré de géothermie, où on se fait fort d'être le vecteur d'accélération des géothermies. Donc le contexte, il est celui qu'on avait dicté il y a quelques années, ou en tout cas anticipé. Et aujourd'hui, on a un véhicule, on a un acteur, on a une société ou un groupe de sociétés qui est Arvern et qui est prêt à accélérer. L'année dernière, je vous avais dit que 2023 avait été l'année de la consolidation, de la structuration du groupe. 2024, on va le voir très vite, ça a été l'année du on va dire, pas encore du décollage, mais de l'allumage. Allez, on va appeler ça comme ça. Vous allez voir, on a gagné les projets, on a tenu nos objectifs, on a fait énormément de choses encore en termes d'exploration, de permitting. On a validé un modèle, on a validé l'intérêt du modèle. Et donc en 2025, on le verra, on va décoller. Arvern est prêt pour l'accélération, est prêt pour aider la France, l'Europe, à se géothermiser grâce à une équipe d'abord. Aujourd'hui, Arvern, c'est plus de 200 personnes qui est déployée grâce à une intégration. On est un modèle intégré et notamment on a des machines de forage qui sont prêtes à forer un peu partout en France. Donc ça, c'est unique également. On a une techno pour le lithium qui a été testée, qu'on va mettre en mode pilote dès cette année. qui est l'année prochaine, après le forage, on va dire, qui lui aura lieu cette année. Et on a un portefeuille de projets impressionnants qui montrent, notamment l'Île-de-France, que la géothermie est archi-plébiscitée pour décarboner les réseaux. Évidemment, il faut aussi souligner que nos partenaires sont non seulement essentiels, mais ils plantent un décor qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques années, mais dire que l'État aujourd'hui nous soutient massivement, pas simplement à travers le plan de Pannier-Runacher, mais à travers l'ADEME Invest, par exemple. Nord-Arverne est le plus gros investissement, donc ADEME Invest et France 2030. Des partenaires comme Renault, comme le Crédit Mutuel Equity, mais aussi, évidemment, nos partenaires de transition, du SPAC Transition, donc Eiffel, Crescendix, qui sont présents aujourd'hui donc, et qui nous suivent depuis le début. Mais donc, voilà, on a un support de nos partenaires, et partenaires qui sont de premier choix et de première main. Voilà, donc Arverne, c'est une vision avant les autres, c'est une organisation, une structuration et un modèle qui est prêt à être déployé, mais c'est aussi, et 2024 le montre, vous allez voir, des résultats probants, des résultats qui sont conformes à ce qu'on vous avait dit l'année dernière et qui sont conformes à la feuille de route. Et évidemment, on ne peut que en être fier. Donc on avait planté notamment quatre principaux objectifs. D'abord, un objectif chiffré qui est le volume d'affaires, donc qu'on avait estimé ou en tout cas objectivé à 16 à 18 millions d'euros. On est à 17,3 millions d'euros. Émilie tout à l'heure vous le détaillera. Une étude de faisabilité qui est terminée, donc là aussi avec un bon nom puisqu'il s'agit de Technip Énergie, qui montre et qui valide la viabilité technique et économique du projet avec des chiffres qui, pour la plupart, sont meilleurs que ceux qu'on avait dans notre business plan et dans nos prévisions. Un investissement assez massif, puisque sur les 50 millions qu'on avait prévus, nous aurions finalement dépensé en 2024 51,9 millions d'euros, donc de façon tout à fait conforme avec ce qu'on avait mis comme objectif annuel. Et au niveau réglementaire, puisqu'une des clés de notre business, c'est aussi d'obtenir des autorisations de forage et des permis dans le désordre, hein, des permis puis des autorisations de forage, eh bien nous avions prévu de poser à minima une AANF, donc une autorisation environnementale, qui est une autorisation de forage. Nous l'avons fait, elle est en cours d'instruction, et donc ça correspond de façon très pratique à le démarrage de la phase opérationnelle, puisqu'en amont on a toute l'instruction, l'obtention des permis et la partie expo, donc ça c'est fait sur un certain nombre de nos permis. Et donc passer à la demande d'autorisation de forage, ça veut dire qu'on est déjà en préchauffe de ce qui sera le forage et la construction des centrales. On n'est plus dans un projet théorique. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans le dur des opérations. Sur cette slide, on a illustré en fait, on va dire, un certain nombre de milestones qu'on a passés, de projets qu'on a gagnés, de projets qui ont été des vitrines, non seulement au niveau d'Arverne, mais je crois aussi au niveau national. On a réussi à faire passer sur ADP un certain nombre de prescripteurs, un certain nombre de décideurs, un certain nombre de partenaires qui ont vu à la fois que la géothermie, ça pouvait être du très concret. Là, on a décarboné l'aéroport de Roissy. Il y a la moitié de l'aéroport qui va passer en géothermie. Donc on va au passage réaliser des économies substantielles de tonnes de CO2 émises, hein, de mémoire autour de 20 000 tonnes, d'économies financières, puisque la géothermie est, contrairement aux idées reçues, toujours moins chère que le reste, s'agissant de chaleur, de chaleur renouvelable et de chaleur tout court. Parce que je défie quiconque de me dire que le gaz, même à 30 ou 40, sur la durée d'un contrat de 30 ans aujourd'hui, peut être considéré comme moins cher. L'État paye au passage entre 50 et 100 milliards de factures énergétiques, de factures gaz payées à la Russie, à l'Algérie. Donc là, on investit avec la géothermie et ADP, on a été convaincus, on a tellement été convaincus, donc on est passé en géothermie avec ce qui est là-haut, en haut à gauche. L'illustration d'une géothermie où pendant 3-4 mois on a un appareil de forage, qui est un gros, quand même une grosse bébête, qui ne fait pas trop de bruit, mais enfin qui prend un peu de place, on va dire, et puis la bébête elle disparaît, et elle laisse la place à rien. Donc la géothermie, c'est non pas rien, mais ça se passe sous les pieds, c'est enterré, et pendant un certain nombre de temps ça tourne, et ça ne consomme quasiment pas d'OPEX. Donc ça c'est un atout absolument majeur, c'est que certes il faut investir un petit peu, mais derrière, c'est totalement, c'est totalement indolore, et c'est ça qui rend la géothermie à la fois vertueuse, mais aussi économique et rentable, et qui passe devant les autres. Donc on a non seulement ADP, qu'on va vous, d'ailleurs aussi vous montrer de façon filmée. Voilà, on va vous montrer en mode accéléré le démontage de l'appareil pour vous montrer à quoi ressemble une plateforme de forage en milieu urbain, parce qu'on est, urbain, en tout cas industriel et restreint, parce qu'on est à ADP, hein, là on est au terminal 1 d'ADP, juste à côté de l'autoroute, donc il a fallu mettre une grosse machine, mais cette machine on l'a démontée, vous allez voir, et après bah, il reste pendant 50 ans ce que vous allez voir. C'est en mode accéléré, puisque comme je le disais, tout ça prend quand même quelques jours, quelques semaines et quelques mois pour la totalité du chantier, mais après, pendant la durée du contrat, dans quelques dizaines d'années, vous avez ce qui reste. Et ça, bah, c'est pareil, je défie quiconque de me dire ou de montrer qu'une énergie équivalente hein, en termes de chaleur, qui produit de la chaleur, peut se targuer d'avoir cette empreinte, cette discrétion, donc grande force de la géothermie. À tel point que Harvey Arn aussi casse les idées reçues d'une géothermie qui ne pourrait pas aller vers l'industriel et vers l'industrie. Donc là aussi, ça a été annoncé. Harvey Arn a gagné un contrat avec Safran à Villaroche. Donc Safran, gros industriel de l'armement, qui consomme beaucoup d'énergie et notamment de gaz. Et donc qui passe en géothermie. Donc là, c'est un peu pareil. C'est discussion en gré à gré avec un client. À la fin, on gagne. Et pendant 20-30 ans, eh bien, on leur fournit de l'énergie en mode... Eh bien, les chiffres sont là, en mode c'est pas moins 5% de la facture, c'est moins 75%, et on remplace, en remplaçant 84% des besoins, on diminue la facture de 3 quarts, et on décarbone, j'ai pas le, voilà, à 75%, donc encore une fois, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de massif. Alors certes, il faut aller forer à 1600 mètres, il faut des autorisations, et c'est là où je reparle de à la fois la simplicité de la solution, elle est simple. Ils ne font pas appel à des approvisionnements exotiques, c'est sous leurs pieds. Donc c'est la simplicité extrême de la solution, mais associée à la complexité de réalisation que seul aujourd'hui Harvey Arn est capable de réaliser. Donc on est dans un espèce de montage où la géothermie doit s'imposer, mais où Harvey Arn est en train de devenir le seul acteur qui peut intégrer, qui peut tout faire, qui peut faire du clé en main, et on top, on peut financer, puisqu'on rentre aussi dans des logiques de financement où non seulement on peut facturer une prestation, mais évidemment, on peut aussi facturer de l'énergie. Donc, la troisième réalisation, en tout cas le troisième contrat, et le troisième nom qu'on peut mettre en avant aujourd'hui, et qu'on a gagné en 2024, c'est Clichy-sous-Bois. Et j'arrive jamais à le dire.
Livry-Gardin.
J'espère que le maire... donc Clichy-sous-Bois, Livry-Gardin, c'est un gros contrat puisque je crois qu'il fait partie du top 10 ou du top 5 des réseaux de chaleur en France, en Ile-de-France, pardon. Donc il doit aussi passer au vert et aussi contrôler ses factures, donc géothermie. Et là, on est sur un modèle à Clichy, un peu différent des autres, qui permet de dire que Harvey Arn ne fait pas que de la prestation, puisque sur ADP on était plus en prestation, on va dire, mais on peut aussi vendre de l'énergie, être en groupement, travailler avec des Dalkia NG, sous des formes diverses et variées. Donc on sait aussi s'adapter, on est agile sur la façon dont on va toucher un partenaire ou un client, de façon à remplir son besoin. Donc ça, c'est pour la partie géothermie, et notamment géothermie Île-de-France. Hein, vous le savez, l'Île-de-France est un gros bassin de géothermie à la fois actuel et en devenir. Et donc on a une autre géothermie en Alsace. Et là, en Alsace, on a un projet absolument fantastique de décarbonation de la région par la géothermie, mais également qu'on va coupler avec de l'extraction de lithium. Donc cette année a marqué la fin de la PFS. PFS qui veut dire Pre-Feasibility Study en anglais, donc l'étude de pré-faisabilité que vous trouvez au milieu et en fait qui va confirmer, on va dire, un certain nombre d'hypothèses. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour avoir la preuve, non pas du concept, mais en tout cas de la viabilité du modèle du projet, et notamment économique. Donc les résultats ont été plus que positifs, puisqu'on voit à travers cette PFS que le projet Lithium France est en capacité de maîtriser ses CAPEX, a des OPEX inférieurs à ce qu'on avait modélisé. Vous verrez qu'il nous place dans les premiers parmi les futurs producteurs de lithium, et techniquement qui est très encourageant par rapport à ce qu'on appelle l'efficacité du DLE, hein, l'extraction directe de lithium, qui est une techno qu'on développe, avec des taux de récupération qui sont dans nos prévisions et donc dans celles de la PFS supérieures à nos attentes. Voilà, vous avez les chiffres à droite, vous les voyez, j'imagine que je vous laisse poser les questions si vous avez des questions sur ces chiffres tout à l'heure. On prévoit donc une première production en 2027 en chaleur et en 2028 en lithium. Alors évidemment, on pourrait s'intéresser à la partie droite, parce que nous, on reste convaincus que le RSE et l'aspect écologique du projet est absolument fondamental. Donc on pourrait dire qu'il est français, qu'il est souverain, qu'il est vert, qu'il est bas carbone, qu'il est vertueux puisqu'il va aussi permettre de décarboner. Donc il aura ce qu'on appelle une contribution active et positive au passeport de la batterie, qui ne va pas manquer d'arriver. Ça pourrait presque suffire pour se dire « allons-y, c'est un chouette projet ». Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. Il faut qu'on soit meilleur que les autres en termes de prix. Et là, ce qu'on voit post-BFS, c'est que le projet positionne, en tout cas la DFS positionne Arverne et Lithium de France dans le premier quartile des projets mondiaux de lithium. Voilà, donc ça, c'est évidemment le résultat qui est inconforme à nos attentes, mais qui doit conforter, on va dire, les investisseurs et le marché, qu'il faut absolument développer ce type de projet et attirer un maximum de soutien et d'investisseurs sur un projet qui est non seulement qui a du sens, mais qui est rentable. Voilà pour la première partie d'un panorama complet de 2024. Je reprendrai le micro pour les perspectives, mais je laisse Céline vous parler des chiffres.
Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc on va dérouler effectivement ensemble les états financiers d'Arverne pour l'année 2024, à commencer par un indicateur qu'on suit tout particulièrement chez Arverne, qu'on vous avait déjà présenté l'année dernière et qui fait partie de nos guidances financières de l'année, donc le volume d'activité brute. Pourquoi c'est un indicateur qui est important pour nous? Parce qu'il reflète très exactement l'activité et la croissance de l'activité pour le groupe tout au long de l'année. Donc il est composé du chiffre d'affaires consolidé tel que on le présente dans notre compte de résultats. Pour cette année, nous avons un chiffre d'affaires consolidé de 14,1 millions d'euros, donc en croissance de 40% par rapport à l'année dernière, principalement porté par nos activités de forage et en particulier par le contrat et les réalisations que vous avez vues sur la plateforme d'Aéroport de Paris. Et à ce chiffre d'affaires consolidé, nous ajoutons deux éléments. Le premier qui est le chiffre d'affaires intersecteur forage, qui aujourd'hui est plutôt anecdotique, vous voyez 54 000 euros, puisqu'il représente en fait les activités qui vont être, les opérations qui vont être réalisées pour notre propre compte, donc à savoir par nos filiales de forage, pour nos opérateurs, que sont les filiales producteurs de géothermie et de lithium. Et donc dès cette année, effectivement, c'est un indicateur qu'on va suivre, puisque les opérations en Alsace commençons, les opérations de forage en Alsace commençons, cette partie-là va fortement augmenter. Et puis on y ajoute aussi 50% du chiffre d'affaires de notre filiale Drillit, qui réalise du forage de surface, et qui cette année s'élève à 3,1 millions d'euros, également en croissance par rapport à l'année dernière. Donc un volume d'activité brute de 17,3 millions, comme le disait Pierre, dans notre guidance, puisque nous avions une guidance entre 16 et 18 millions. Alors, si on regarde la suite du compte de résultats, donc effectivement un chiffre d'affaires consolidé de 14,1 millions d'euros, en dessous desquels nous retrouvons des achats et de la sous-traitance qui augmentent notamment du fait des réalisations sur la plateforme d'ADP où nous portons un certain nombre de services pour pouvoir offrir à notre client un doublé qui est clé en main. Des charges de personnel à 20,3 millions du fait de l'augmentation des effectifs. Nous avons recruté 85 personnes entre le 31-12-2023 et la fin 2024. Et on arrive effectivement à 200 personnes aujourd'hui. Et puis une année complète de gouvernance pour le groupe qui s'est beaucoup structurée dans le courant de l'année 2023 au moment de l'IPO et qui, voilà, cette année, se déploie pleinement. Des autres produits et charges pour 6,9 millions d'euros, principalement constitués de production immobilisée, du fait des développements qui sont réalisés notamment sur nos permis en Alsace et dans le reste de la France, et donc un EBITDA courant de moins 18,4 millions, en dessous duquel nous pouvons retrouver notamment la partie financière avec, au niveau du résultat financier, 11,2 millions qui sont générés pour partie par les placements de trésorerie, de la trésorerie qui a été levée lors de l'IPO, mais aussi de la réévaluation des baisses à ratchet B sur Lithium de France, ainsi que la réévaluation de certaines dettes qui avaient été contractées lors de l'acquisition du groupe Degré l'année dernière. Donc un résultat net à moins 11,1 millions d'euros. Un autre des indicateurs financiers que nous suivons sur le groupe, c'est le déploiement de nos CAPEX, qui permet de vérifier que nous avançons dans le bon ordre. Nous avions guidé pour 50 millions de déploiement de nouveaux CAPEX cette année. Nous avons réalisé 51,9 millions. Donc nous sommes à notre objectif. D'une part, en ayant déployé 3 campagnes d'acquisition de données 3D sur le territoire, donc 2 en Alsace et 1 en Auvergne sur l'année pour 14 millions. Ensuite, par l'acquisition d'un nouvel appareil de forage qu'on appelle le P18, qui a été co-construit et designé avec notre partenaire Eraknecht cette année et qui est financé en leasing. L'acquisition d'équipements de forage complémentaires, toujours dans le cadre de la préparation de nos campagnes de forage à venir pour 11,2 millions d'euros. Et puis, dans les autres éléments, à noter l'acquisition d'une base logistique dans le sud de l'Île-de-France, qui est vraiment un endroit stratégique pour pouvoir stocker des équipements dans le cadre des projets à venir, notamment en Île-de-France. Donc un CAPEX brut de 51,9 millions, conformément à nos objectifs. Côté bilan, donc on retrouve les immobilisations incorporelles 53 millions, dont les 14 millions dont je viens de vous parler supplémentaires dus au développement sur les permis exclusifs de recherche. 52,3 millions d'immobilisations corporelles qui augmentent fortement depuis l'année dernière du fait de l'acquisition du matériel de forage. Côté courant, des stocks et créances qui augmentent du fait de la constitution de stocks pour les campagnes de forage, mais aussi du fait de créances clients qui augmentent, car au 31-12-2024, contrairement à l'année dernière, nous avons des chantiers en cours. Donc autant côté créances clients que côté dette fournisseur, nous avons un certain nombre de factures qui sont ni décaissées ni encaissées. Donc un effet de PFR. Et donc une trésorerie à 123,8 millions d'euros pour un total actif, total bilan à 255 millions d'euros. Côté passif, il n'y a pas eu d'opération sur le capital cette année. Côté passif non courant, donc une augmentation des dettes du fait du financement du nouvel appareil de forage en crédit bail. Également un autre passif à 5,1 millions d'euros qui reflète l'apport de Eraknecht, donc notre partenaire dans la société qui a été constituée avec eux cette année, DrillTip. Et également, côté courant, des financements qui ont augmenté, alors principalement effectivement des dettes de lease et des autres passifs financiers qui baissent, les dérivés. Et là, c'est l'impact que l'on retrouve sur la réévaluation des BSA Ratchet de Lithium de France. Des autres passifs courants qui augmentent par ailleurs. Et là, c'est les dettes fournisseurs que je vous décrivais tout à l'heure, notamment sur les chantiers qui sont toujours en cours au 31-12-2024. Si on regarde maintenant les flux de trésorerie, donc la trésorerie à l'ouverture au 1er janvier était à 143 millions d'euros. Nous atterrissons au 31 décembre avec une trésorerie à 124 millions d'euros, donc 20 millions d'euros consommés, constitués pour 7 millions des activités opérationnelles, 17 millions sur la partie investissement. Donc ici, on voit bien l'effet du financement puisque nous avons effectivement réalisé 51,9 millions de CAPEX, mais une grosse partie a été financée, donc uniquement 17 millions de décaissements. Et puis côté financement, l'apport de RF Next en compte courant, principalement, donc nous permettant d'arriver à une trésorerie à la clôture à 124 millions d'euros et une trésorerie nette à 85,6 millions d'euros, incluant les dettes de loyer IFRS 16 pour le connaisseur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les lignes, l'essentiel a été dit et je répondrai à vos questions évidemment à l'issue de la présentation.
Merci, Mille. Et donc, maintenant, la dernière... Ah non, alors, on va... Avant de passer à 2025, je pensais que c'était à la fin, mais tant mieux si c'est maintenant. Donc, nos autres engagements RSE, je rappelle qu'on est entreprise à mission. Donc là, j'ai voulu rappeler la raison d'être. Évidemment, c'est pas simplement important, c'est nous. Donc, on a voulu être ça, et là, pour trouver les mots-clés qui sont plus que jamais actuels, hein, le savoir-faire... les géoressources, donc le sous-sol, la transition énergétique, hein, les énergies vertes, et puis la notion de territoire. On toucherait quelques mots à la fin sur les bonnes raisons d'investir aujourd'hui chez Arverne. Il y a notamment, je pense, la culture qu'on est en train de développer de territoire, qui est évidemment extrêmement importante, même fondamentale, à l'heure de convaincre et de faire adhérer les populations locales à nos projets. Donc nous sommes entreprise à mission et donc nous le faisons fort et nous faisons même un devoir au même titre que de respecter ou de coller à nos objectifs techniques et financiers, de coller à ceux qui sont liés au RSE, à l'ESG. Donc cette année on a tout fait, 100% des objectifs, que ce soit au niveau environnemental, au niveau des objectifs sur l'interne, hein, les collaborateurs, donc le déploiement d'actions qui visent à améliorer, par exemple, la qualité, qu'on appelle la qualité expérience collaborateur. Je vous laisse lire, si vous avez des questions, on y revient. Et comme je le disais, les territoires extrêmement importants. On entend, on lit beaucoup de choses, mais je peux vous dire que c'est un des travaux, les plus engageants, les plus engagés du groupe, que ce soit dans le Sud-Ouest ou dans le Grand Est. Évidemment, on commence aussi à Paris et en Auvergne, puisqu'on a des opérations qui démarrent. On déploie des méthodes, on déploie des idées, on déploie surtout des convictions qui, je pense, seront un élément très différenciant de ce qu'est et ce qu'aura Arverne. En termes de perspective, une slide intéressante, elle est assez épurée. Ça, c'est ce que va sortir la PPE dans quelques jours, si elle sort, si le gouvernement est là, ça fait beaucoup de si, mais a priori, elle devrait sortir. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire, la PPE? Donc ça, c'est quasiment acquis. Qu'on va passer d'une situation de 7 TWh en géothermie, toute géothermie confondue, à 16 TWh en 2030. Ça paraît pas grand-chose, comme ça, dit comme ça, sauf qu'en fait, il va falloir doubler en 7 ans ce qui a été fait en 50 ans, en gros, parce qu'on peut dire que la géothermie d'Auger, c'est dans les années 70. Et même que c'est largement antérieur, puisque comme je disais, le gros mérite d'Arverne, c'est d'avoir pris une idée très simple pour la faire coller aux impératifs de la transition. Et bien donc, en 7 ans, il va falloir qu'on fasse ce qui a été fait en plus de 50 ans en France. Donc on m'a rajouté cette slide, et en fait c'est celle que je préfère. C'est comment? Qui va faire ça? Faut pas compter sur et c'est pas du tout un jugement de valeur, sur les acteurs classiques. Parce que, un, il n'y a plus d'expertise. Elle s'est totalement envolée, perdue, parce qu'on est souvent devenus des généralistes, donc encore une fois, pas de jugement de valeur. Ils font beaucoup plus d'autres choses que nous, mais ils sont devenus des généralistes, et malgré la top position de la France sur le sous-sol, puisqu'on est un peu comme à l'image du nucléaire, on a été précurseur et on a été dans l'excellence pendant des dizaines d'années sur l'oil et le gaz. J'en veux pour preuve mes collaborateurs et amis. Pétroliers qui, comme moi, se sont reconvertis, mais qui, toute leur vie, ont vu des livres de l'IFP sur toutes les plateformes au monde, qu'elles soient anglo-saxonnes ou françaises. Donc la France avait une longueur d'avance, voire un wagon ou un train d'avance, et avec la loi Hulot, etc., c'est malheureusement perdu petit à petit. Arverne fait l'inverse, donc on est des pétroliers reconvertis, on apporte cette expertise et on veut la rebâtir là-dessus. Et donc il n'y a pas 36 acteurs qui pourront faire le comment. Moi, j'en vois qu'un aujourd'hui, c'est Arverne. Donc, je ne sais pas si on va aller chercher les 8 TWh, mais en tout cas, on va y contribuer. C'est ce qu'il faut. Il faut tout faire pour. Donc, le comment, il est là. Il est, on va dire, pour 3, raisons schématisées sur cette slide complète. La première raison, je viens de le dire, c'est l'expertise. L'expertise, on l'a. L'expertise, c'est la géoscience, c'est la géophysique, c'est le forage, c'est les opérations. C'est tout ça. Vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est une expertise pétrolière. La géothermie, c'est 200 puits par an dans le monde qui se florent. L'oil and gas, c'est 200 000. Donc, on n'a pas les mêmes réflexes. Le deuxième aspect important du comment, c'est l'organisation. On s'est organisé, on s'est déployé dans les territoires avec une société de forage, avec de la force de frappe géosciences, avec la capacité à aller chercher des fonds pour aller vite. Donc voilà, maintenant, il faut faire, on va faire en beaucoup moins de temps ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui en géothermie. C'est notre défi, c'est tout l'enjeu qu'on est en train de montrer et qu'on a déjà montré, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aller jusqu'au forage, ça demande du permitting et de l'explo, et ça, on a déjà eu les satisfaits, voire les félicitations de l'État français, qui nous a dit « on n'a jamais vu ça ». Je l'ai entendu des dizaines de fois. Ce que vous avez fait en Alsace, on ne l'a pas vu. Donc que ce soit Pierre-Paul Jacques, qui ont des permis aussi, on ne l'a pas vu. Et la troisième raison pour laquelle on va être l'acteur qui va faire le comment, c'est parce qu'on est les seuls. Aujourd'hui, comme je le disais, j'en vois pas d'autres. Il faut qu'on reste maintenant leader jusqu'à devenir le leader français que l'industrie et que l'écologie presque, le monde écologique, économique et énergétique attend. Il ne faut pas croire que côté lithium, puisque là j'ai beaucoup parlé de géothermie, hein, on a un lithium qui est co-substantiel à la géothermie, il ne faut pas croire que côté lithium ça décélère. Là aussi on entend des fausses rumeurs et il y a des contre-vérités. Le marché du lithium, il est toujours en tension et il va devenir en tension de plus en plus. J'en veux pour preuve, évidemment, des prévisions donc qui n'engagent que finalement ceux qui les font, ceux qui les croient, mais n'empêche qu'elles convergent toutes vers le fait qu'il va y avoir une demande de plus en plus tendue à partir de 2027-2028. Donc que les prix vont se stabiliser. Il va y avoir une inversion, on va dire, des prix que vous voyez en bas. Un fléchissement, enfin, quel que soit le nom. On souffre, on va dire, encore aujourd'hui, de l'ouverture de mines en Chine, donc qui sont des décisions politiques, on va dire, pour maintenir un cours bas. Évidemment, bah, ensuite, faute d'investissement, ça va s'inverser, etc. Et se stabiliser. Et ça, j'en veux pour preuve maintenant les opérations qui ont lieu sur le marché. Hein. Il y a des milliards d'euros qui sont en train de s'échanger sur des opérations qui ont trait au lithium, que ce soit ici aux US ou ailleurs, et qui montrent que le monde s'organise, et les investisseurs aussi, pour investir dans cet or blanc. Et donc bah, là-dedans, Lithium de France fait partie des acteurs qui travaillent une technologie DLE pour extraire un lithium propre, un lithium souverain, qui, comme je le montrais tout à l'heure, est dans le premier quartile en termes de prix. Prix d'extraction, de prix de production, hein, autour de 4 500 € la tonne produite. Voilà, donc évidemment, ce projet, eh bien, on le travaille comme un projet, avec un séquençage opérationnel, avec un business plan, avec, on va dire, un planning qui se traduit aujourd'hui par, on va dire, dans nos plans, 16 unités de production et 5 modules de purification ou raffinage. Donc nous allons commencer le forage du premier doublé pour la construction de la première centrale et le test le pilote de la technologie DLE après forage. Voilà, donc évidemment, s'agissant d'un projet, on va dire, à fort capex, on a un modèle de financement assez classique. Hein, qui post-subvention et post-autofinancement, puisqu'il sera aussi financé assez vite, on l'espère, par ses revenus, par ses cash flows, eh bien, on va agréger du financement bancaire, du financement de nos partenaires, et évidemment, une partie en fonds propres. Voilà ce que ça peut donner en termes chronologiques. On a d'abord une phase pré-industrielle dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Donc là, on parle du projet de l'Équipe de France, qui va démarrer, là, finalement qui démarre, et qui va durer de 12 à 18 mois, dans laquelle on va retrouver donc, la DFS, cette fois, la Definitive Feasibility Study, en parallèle de la DFS, la Banking Feasibility Study, plus les premiers puits, donc le premier doublé, la première centrale, les premiers tests du DLE, et donc qui derrière donnera suite à une phase industrielle, là évidemment beaucoup plus lourde en financement, beaucoup plus lourde en opération, on va déployer des moyens qu'on aura construits par ailleurs, puisque comme vous le savez, l'idée est de faire travailler nos appareils, être agile, rapide et évidemment au niveau des coûts et des moyens très optimum. Et tout ça se traduit par des objectifs, et donc j'en terminerai par là, pour 2025, avec d'abord donc, des objectifs de chiffres, non pas de chiffre d'affaires, mais donc de volume d'activité, volume d'affaires, qui augmentera significativement de plus de 45%, et donc on estime aujourd'hui entre 25 et 30 millions. Donc voilà, on suit notre trend, les appareils vont travailler aujourd'hui dans un mixte qui sera pour le groupe Arverne et ses filiales et pour le marché tiers, comme on l'a fait cette année, avec un volume d'investissement donc, qui sera peu ou prou le même que cette année. Hein, donc entrer dans la phase pré-industrielle, on va continuer évidemment à investir sur nos filiales. On va commencer à forer. Donc là, ça va être encore plus qu'ADP, un moment ultra important, puisque là, ce sera pour notre compte. ADP, on a foré pour ADP, même si on a participé à ce beau projet de décarbonation de l'aéroport. Pensez-y dès que vous allez prendre l'avion maintenant, on y a contribué. Mais là, le premier forage va être pour Lithium de France, avec le B04, avec les équipes de Loïc, pour le compte des équipes de Guillaume, du groupe Arverne et de ses actionnaires. Donc en circuit court, en étant le plus efficace et pas le plus rapide, parce que ça peut, on n'est pas pressé au sens où on veut faire les choses vite pour les faire vite, mais malgré tout, pour tenir nos objectifs et montrer à la France entière que ce qu'on avait visionné prend forme et devient réalité. Évidemment, tout ça englobé dans des objectifs et des responsabilités ESG extrêmement forts. Hein, on sera évidemment avec l'équipe très vigilant à bien renforcer nos engagements sur le côté RSE. Je pense qu'on sera aussi jugé là-dessus, et donc évidemment on ne va absolument rien lâcher de ce côté-là. Donc l'entreprise à mission nous oblige, et voilà, on continuera à avoir des idées, hein, je ne vais pas vous les dire, hein, on pourra peut-être en parler, mais on met en place aussi, on essaie d'être innovant aussi côté ESG. Et ça, donc ça c'est une picture un peu plus globale sur ce que représente le projet Arverne aujourd'hui. On n'est pas figé, donc à l'avenir, comme je parle de géothermie avec un S, mais aujourd'hui, c'est voilà, l'engagement qu'on a pris, il est à ce niveau-là, donc avec une trajectoire de croissance et des objectifs au plateau que vous avez, qui représentent des montants d'investissement qui sont évidemment conséquents, mais qui vont être un mix intelligent d'equity, de dette, de subventions, etc. Et donc, je conclurai en vous redisant, évidemment, que je crois fondamentalement à ce que je fais et ce que mes équipes font, et que je vois en Arverne un véhicule absolument unique dans lequel investir aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est unique. Le modèle, la société, les people, les équipes, la façon dont on travaille, la façon dont on a fait le choix de devenir entreprise à mission bien avant que n'arrive le Covid, que n'arrive l'Ukraine, que vous n'arriviez, je pense que c'est un élément qui est ultra différenciant. Ensuite, parce que, et je le redis, on met énormément de simplicité dans un monde qui est ultra complexe. Encore une fois, la solution technique peut paraître complexe, ce qu'on fait est totalement excitant sur les parties scientifiques, techniques et technologiques, mais au final, la géothermie, c'est simple. Et moi, ça, je continue à le dire, on n'est pas en train de réinventer la roue, on fait des choses qui marchent, sauf qu'on fait des choses que peu de gens savent faire. Voilà. Mais ça fonctionne. Donc ça, c'est très important. Après, les autres raisons, il y en a évidemment d'autres. Je crois que moi, je suis extrêmement fier d'avoir aujourd'hui des actionnaires comme le Crédit Mutuel Equity, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'État, comme Renault, etc., etc. Ils nous ont fait confiance. Je crois qu'on va en attirer beaucoup d'autres par l'unicité, la simplicité et par nos résultats. Évidemment, c'était très important de montrer qu'on a tenu nos résultats, que ce soit opérationnel et financier. Voilà, on a des jalons qui sont très clairs. un potentiel de création de valeur qui est gigantesque, une visibilité quand même, qu'elle soit politique, contextuelle, qu'on ne peut plus aujourd'hui optimale. La géothermie, elle n'a pas de coloration politique également, ça c'est important. De l'extrême gauche à l'extrême droite, la géopolitique, elle suscite l'adhésion. Il n'y a pas de débat. Et Arverne, en tant que modèle, en tant que groupe, maîtrise son sujet et donc sera à la pointe de ce combat et ce défi qui est le défi du siècle. Voilà, merci beaucoup. On a tenu à peu près les délais, donc maintenant on va laisser place à vos questions.
Forcément chercher tous les nouveaux térawattheures à horizon 2030. Donc premièrement, pourquoi pas. Et deuxièmement, si vous n'allez pas le faire, qui peut le faire? Parce que j'ai aussi cru comprendre que le savoir-faire est aujourd'hui que chez Arverne. Et la deuxième question, c'est par rapport à ce qui a été annoncé mardi au niveau européen, aux aides à une procédure sur tout ce qui est lithium, souveraineté, mais aussi aide financière. Est-ce que Arverne peut faire sujet de ce genre d'aide? Merci.
Alors, bon, il aurait été un peu présomptueux de ma part de dire qu'on va tout faire. Maintenant, en fait, je suis d'accord, on va tout faire. L'humilité est une des valeurs fondatrices du groupe. Non, évidemment, cette térawattheure, si vous prenez le nombre de centrales, etc., ça fait beaucoup. Et il y a quand même des acteurs qui font de la géothermie. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils le font beaucoup trop lentement. Et ils le font en mode, on va dire, assez opportuniste, que ce soit les gros comme Engie ou Dalkia ou d'autres, alors que nous n'allons mettre en avant que cette solution. Donc si vous comptez mathématiquement ce qu'ils ont fait, on ne va pas dire qu'ils n'ont rien fait. Les 70 centrales viennent d'acteurs comme ceux que je viens de citer, il y en a d'autres. Et il y a une multiplication de petits acteurs pour la géothermie de surface. Donc, voilà, on ne fera pas 100% des objectifs. Par contre, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on soit... Très massivement présent sur ce... Voilà, 100%, ce serait un peu trop présomptueux, mais on va tendre, on va dire, pour devenir l'acteur qui prendra le plus de place, très largement, sur ce secteur. Si vous faites allusion à la deuxième question, aux projets qui ont été sélectionnés par l'Union européenne comme projets stratégiques, on a tout simplement décidé de ne pas y postuler. Aujourd'hui, hein, c'est des guichets qui sont réguliers et récurrents. Maintenant, on va bénéficier de ce qui se passe en termes de réglementation, comme les autres bénéficient de tout le travail qu'on fait au niveau réglementaire et au niveau politique et au niveau lobbying. Donc, il va y avoir des réglementations, des optimisations mises en place, et grâce notamment à cette initiative européenne, dont la filière bénéficiera. Mais on a décidé de ne pas postuler cette année pour des raisons internes. Ça ne veut pas dire que. On n'a pas d'autres labels, d'autres leviers, hein, vous le savez, que ce soit le fonds chaleur, le C3IV, l'Innovation Fund, etc. On est éligible à tout ça, et évidemment, on fera un maximum pour en bénéficier le plus possible en respectant la règle, puisqu'il y a les minimis, il y a un certain nombre de choses. Donc bien sûr qu'on est attentif à tout ça, et qu'on sera présent au moment opportun.
Bonjour, Jean-Luc Romain, CIC Market Solutions. Dans les produits financiers, il y a un produit de réévaluation de bons de souscription d'actions, je crois, de Lithium de France. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de valorisation de Lithium de France avant, après? Ma deuxième question porte sur ce que vous rapportiez peut-être de manière un peu elliptique sur l'accueil réunion préparatoire pour un forage, pour une autorisation de forage à Soufflanheim, si je ne me trompe pas. Comment vous avez gagné l'adhésion dans des villages où il y a peut-être une réticence, une trop grande proximité à des événements qui, par le passé, qui n'ont rien à voir, mais qui sont encore assimilés?
Alors, sur la première question, et je te laisserai la deuxième, Pierre. Sur la réévaluation des BSA Ratchet, c'est en fait quelque chose qu'on doit faire à chaque clôture et dont le sous-jacent n'est pas forcément l'élément le plus important dans la valorisation. Il y a plusieurs éléments et ils seront détaillés dans nos comptes. Donc Jean-Luc, tu pourras lire attentivement la partie, la section sur le sujet. La volatilité de sociétés comparables fait partie des critères d'évaluation, tout comme la proximité d'événements de liquidité. L'évaluation, voilà, c'est un mélange de tous ces facteurs-là qui fait que la juste valeur de ces BSA peut varier et varie raisonnablement à chaque clôture. Donc, effectivement, il y a entre 3 et 4 millions d'euros de produits financiers cette année sur le sujet.
J'imagine bien que j'ai préparé la réponse. Non, c'est un sujet qui est éminemment critique et qui est central sur tous les sujets d'énergie. Donc c'est pas la géothermie qui est seule sur ce sujet. Et tu l'as dit, et vous le savez, on souffre d'un événement qui a eu lieu il y a quelques années, qui s'appelle Vandenheim, et qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a vu la Terre trembler. Pour des raisons qu'on connaît très bien. Donc on n'est pas sur la même géothermie, je le redis, les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on voit? D'abord, Soufflenheim, le mot a été dit, est un projet différent du projet sur lequel nous avons posé une autorisation de forage. Vraiment, chaque village, chaque ambiance est différente, et il faut tous les traiter, puisque comme je l'ai dit, on a un projet de territoire régional. Mais les projets sont tous différents, il n'y a pas de recette miracle. La seule chose qui marche, c'est être au contact. Lithium de France est né en Alsace. On est une société locale, donc on se fait fort de comprendre la population, de leur parler, d'expliquer, etc. Et il n'y a que ça qui marche. Sur le sujet, et donc le premier projet sur lequel nous avons travaillé, obtenu des permis, fait de l'explo et sommes en cours d'obtenir l'autorisation de forage, on a eu les mêmes problèmes. On a eu une première réunion publique. On a eu une réunion publique, les premières se passent toujours de façon un peu découverte, exploratoire, et nous on voit, on tâte le pouls, on prend les réunions, on prend les réactions, et ensuite on va voir les gens. À Soufflenheim, il s'est passé la même chose. Donc on ne peut pas juger, on va dire, l'acceptabilité ou de l'adhésion d'un projet après une réunion publique. Il est absolument normal qu'il y ait des oppositions, des questions qui sont tout à fait légitimes. Lors d'une première réunion publique, c'est fait pour ça. Sinon, ce serait non seulement étonnant, bizarre. Et donc maintenant, tout le rôle de nos équipes, et je peux vous dire qu'ils sont au travail et très très créatifs. Ils font du porte-à-porte. Ils ont des camions Jami pour aller expliquer en 3D ce que c'est. On fait du porte-à-porte avec ça. Eh bien, ça va porter ses fruits. Ils vont faire même d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une procédure publique, c'est deux réunions. Là, on a fait la première. Il y a eu des oppositions. Évidemment, tout le monde a dit « aïe, 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 c'est un projet compliqué, c'est foutu ». Non, c'est juste la réaction normale d'un public normal à qui on dit « on va faire un puits de forage à 200 mètres des habitations ». Mais on sait pourquoi on le fait. 200 mètres des habitations, c'est un lieu qui n'a pas été comme ça. On n'a pas joué à pile ou face. Et quand les gens auront compris le projet, là, en l'occurrence, qui consiste à forer un puits pour acquérir de la donnée, mais qui ne présente absolument aucun risque, pour le coup, de sismicité, puisqu'on est sur un seul puits, qui ne fera pas l'objet d'une circulation. La sismicité, c'est quand on circule qu'il y a un risque. Et donc, eh bien, ils comprendront. Et donc, on va les voir, les revoir, les re-revoir. On va écrire, on va répondre. Et à la fin, ils adhéreront au projet. Donc, ça, c'est notre pari, et je ne vais pas dire peut-être. Ils adhéreront au projet. Comme ils ont adhéré sur LS1. Après, adhérer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 10%, 90% de la population? À chacun de juger, mais n'empêche que l'écosystème national et local nous a fait confiance pour le premier, ils nous font confiance pour le reste.
Merci, Monsieur le Président. Est-ce que tu pourrais donner des détails sur la technologie d'extraction, puisqu'il y a eu un certain nombre d'incertitudes dans la période antérieure, et notamment au regard de l'analyse de technique qui a été faite et qui a amélioré, semble-t-il, le ratio par rapport au business plan initial. Premier élément de question. Deuxième élément de question, j'ai entendu sur une grande radio, la plus grosse de France, que Eramet s'intéressait au saumur d'Alsace. Qu'est-ce que vient faire un excavateur et un mineur dans un travail de foreur? Nous sommes des foreurs, ils sont des mineurs. Est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce qu'il n'y en a pas? Que se passe-t-il avec eux? Merci.
Je vais essayer d'être bref, c'est un sujet quand même complexe pour le coup, la techno, puisque comme je l'aurais dit, on est sur une solution macro très simple, la géothermie, mais parsemée de petits défis technologie, et l'un d'eux, pas le moindre, c'est le DLE, Direct Lithium Extraction. On a fait un choix majeur au démarrage du projet chez Lithium de France, c'est de ne pas développer en propre notre techno. Donc on s'est reposé sur une trentaine ou une quarantaine de technos existantes. On les a testés en conditions, dans les conditions qu'on aurait sur nos centrales, et on en a sélectionné ou présélectionné deux, qu'on ne peut pas discloser aujourd'hui. Mais ces deux vont être testés, vont être mis à l'épreuve, on va dire en mode pilote, après le forage de LS1. À la fois les tests et donc l'étude de Technip Énergie ont montré que ces technologies avaient des résultats. Je crois que les chiffres étaient là, plus de 90% d'efficacité. Donc il y a 90% du lithium présent dans l'eau, dissous dans l'eau, qui sera capté par cette techno. Il faut encore la mettre à l'épreuve de la, on va dire, des conditions in situ et à l'échelle. Ce qui fut le défi majeur pour lequel on est passé d'un TRL quasiment nul, donc d'un niveau de maturité technologique, à un TRL plus autour de 7, 8, 9 maintenant, montre que le choix des technos, l'approche qu'on a eue avec Equinor, notre partenaire, et le choix de la techno s'est avéré payant. Et on appelle ça aujourd'hui, il y a trois grandes catégories de techno. Nous, on a choisi avec nos partenaires la techno d'adsorption, avec un autre choix fort qui est le choix du produit, puisque nous n'irons pas vers l'hydroxyde qui était prévu au départ, mais le carbonate, qui semble être le choix le plus pertinent au regard du paysage de la batterie en France, qui sera un partage entre l'hydroxyde et le carbonate. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Eramet, Eramet fait partie des sujets qui ont été sélectionnés par l'Union européenne comme sujet stratégique, donc on peut en parler, a fait un choix, je trouve, audacieux, c'est de compléter leur portefeuille de projets miniers, notamment dans les salars, sur le lithium, par un pari sur le lithium géothermal. Alors certes, ils ne sont pas foreurs, mais nous non plus. Nous avons une société de forage et une grosse expérience qu'ils n'ont pas. En revanche, Eramet a un avantage, c'est qu'ils ont une expérience très forte sur la partie qu'on a appelée purification, qui est en fait du raffinage. Donc il y a une vraie complémentarité entre ce que peut faire et ce que peut apporter Eramet et ce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils vont faire par d'autres, là en l'occurrence Électricité Strasbourg, puisque c'est leur partenaire, mais qui pourrait très bien demain être Lithium de France. Il y a absolument rien dans ce que je dis, alors rien de rien, évidemment. Tout ça est de la pure spéculation, mais c'est une dynamique qui est en train de se mettre en place sur un projet qui n'est pas simplement à l'échelle de Lithium de France ou des Rametes. C'est un projet qui est capital dans l'autonomie française en matière critique, et donc il va peut-être, un jour ou l'autre, prendre une forme plus large, plus importante, plus volumineuse, côté français, côté allemand, ou des deux côtés.
Bonjour, Gauthier Lebihan, Odo BHF. J'avais trois questions. La première, c'est... vous parliez de la nappe ADP, vous parliez de contrats de 30 ans. Est-ce que les doublets ont une durée de vie terminée? Est-ce que ça, au bout de 50 ans, on ne peut plus l'utiliser pour produire de la chaleur? Le deuxième point, c'est que vous parliez de facture d'électricité qui était réduite de 75%. Ça me semble énorme. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas beaucoup plus de demandes et passez pas votre temps actuellement à forer? Et la troisième et dernière question, alors ça rejoint un peu la possibilité de partenariat, là c'est sur le lithium. Les capex en Alsace sont de 1,8 milliard, 1,9 milliard. Je sais qu'en Amérique du Sud, ils sont plutôt de l'ordre de 1 milliard. Est-ce que vous pourriez vous associer pour réduire, est-ce qu'il y aurait des synergies possibles en faisant des partenariats avec, un Eramet ou un Vulcan pour réduire les capex, entre guillemets et les investissements par rapport à ces projets?
Je commence par celle-là, si vous le permettez. Et il faut comparer des pommes et des pommes. Hein. 1 milliard de capex sur des projets de salaire contre 2 milliards de capex dans la géothermie, je ne sais pas de quoi on parle, pour des productions peut-être différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que en fait, ce qui compte, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le résultat de un de nos études et de la BFS qui montre que 4 500 € la tonne sera notre coût de production qu'il faut comparer, on va dire, au coût de production de nos amis qui sont dans les salars. Donc je peux rien dire parce que je les connais pas suffisamment et je veux pas parler pour eux. Il doit y en avoir à gauche et à droite de la courbe hein, des salars. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est que en termes de capex, en tout cas de chiffres, la vertu et l'avantage du projet Lithium de France, c'est qu'on va mutualiser une grande partie des coûts, ou en tout cas une partie des coûts, entre la géothermie et le lithium, au moins jusqu'au puits, l'exploration, le permitting, le puits. Tout ça, c'est des coûts qui vont être mutualisés. Donc à la fin, comme il y aura des revenus des deux côtés, ils sont moins chers. Et donc on va le retrouver aussi dans le break-even du projet. Et là, j'ai du mal à comparer. Quand vous me dites 1 milliard, je ne sais pas à quel niveau de production ça fait référence, mais on est très très bien positionné. Sur la mutualisation, évidemment, c'est ce que je viens de dire, pas forcément que pour des histoires de coûts, mais là pour des questions d'approvisionnement, pour des questions de souveraineté, pour des questions politiques. Il n'est pas exclu qu'il y ait des alliances à l'avenir, mais chaque jour suffit sa peine. 2025, pour nous, ça va être une année où on va forer des puits, on va devoir encore prouver des choses. Mais évidemment, je ne dis pas que l'État pense pour nous également, mais il y a des ambitions étatiques, ce sont des projets d'intérêt stratégique au niveau national. Vous avez cité des sociétés qui sont aussi des sociétés d'État, en partie. L'État et ses acteurs ont bien conscience que non seulement pour des raisons de coût, mais aussi pour d'autres raisons, il est utile d'avoir en tête que voilà, il y a une tectonique des plaques qui va avoir lieu. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour nous. Pour en parler. Sur la première question, j'ai oublié la seconde, c'était la durée des puits. En fait, la durée des contrats, des concessions aujourd'hui, des contrats d'exploitation donnés par l'État, ou discutés en gré avec des acteurs, c'est 20-30 ans. Ça ne veut pas dire que c'est la durée de vie d'ouvrage. La durée de vie d'ouvrage, c'est plutôt entre 50 et 100 ans. Il n'y a pas aujourd'hui de référence où on a produit de la géothermie pendant plus de 100 ans. Hein. Les premières centrales, c'est les 70. Eh ben, les centrales des années 70 tournent encore, modulo quelques travaux de puits, quelques workovers. Mais donc, la géothermie est ce qui se fait de plus discret, de plus robuste sur la planète énergie. Et pardon, la deuxième question, c'était sur le...
C'était la réduction des coûts de 75% et comment ça se fait ?
Ah oui, non, parce que, alors, pardon, j'ai peut-être pas été clair, c'est pas une facture d'électricité, c'est une facture d'énergie. Donc la facture d'énergie va être réduite. Donc l'énergie, c'est là en l'occurrence, c'est plutôt le gaz. Ils vont réduire une facture d'énergie qu'ils estiment évidemment, eux, sur 30 ans de l'ordre de ce qu'on a montré. Et ça, c'est sans compter la facture carbone. Le jour où on va leur faire payer le CO2, ce sera encore pire.
Est-ce qu'on peut refaire un point sur les parcs d'appareils de forage chez Drill Heat et chez Devey, enfin pour Drill Heat et pour Devey, combien sont en service aujourd'hui, combien à la fin de l'année dans les deux cas?
Drill Heat, donc filiale à 50-50 hein, avec RN, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est 6 appareils aujourd'hui, ça va le rester pour l'instant. Drill Deep, 100% groupe Arverne, c'est 4 appareils de forage. C'est une filiale, excusez-moi, 80% groupe Arverne et 20% avec Nest, nouvellement créé. Donc là, c'est 3 appareils en service, pardon, plus un appareil qui sort du chantier de construction. Un très gros appareil qui a foré sur RDP, le B04, le B18 qui sort du shipyard. Du chantier de construction, le MR8000 qui est en contrat chez Storengy et le HH102 qui est en contrat chez Geocell. Plus de questions ? Écoutez, encore une fois, je vous remercie infiniment d'être venu. votre intérêt. Et puis je vous propose de, encore une fois, de profiter de, des personnes du groupe qui seront là pour continuer à vous poser vos questions si vous en avez. Merci, bonne fin de journée.
Sur notre site et je peux vous l'envoyer.
Vous l'envoyez ?
Oui, je vous l'envoie.